matériel électrique, moteur et groupe électrogène. Au comptoir sous le Tain, 23 boulevard des Pyrénées, à Mont-Lyon, le 05 59 28 18 87. Haro esak shibegua Irso shoria Erasu Nora choraiten sirensu Irso shoria
Bonsoir à tous, Radio Paloma en ce mercredi 2 novembre. Radio Paloma qui continue, il y a des chasseurs qui sont rentrés définitivement, d'autres sont encore en poste et le passage s'est lui aussi un petit peu calmé. Alors, il a un petit peu changé par rapport à hier, on va en parler tout de suite. Donnant tout d'abord la météo, aujourd'hui grand beau temps. Alors, pour demain, eh bien, soleil pareil toute la journée, avec des minimales de 7 degrés le matin, donc là il fait frisquette. Alors, on ne sait pas trop si vous mettez encore des chemises à manches courtes ou à manches longues, puisque l'après-midi, ça monte. Alors, on va frôler les 20 degrés encore. Alors, un vent, le fameux vent variable le matin et du vent de nord-est l'après-midi. Voilà pour la météo, le petit bulletin de Radio Palombe. Alors, pour les comptages, eh bien, du côté d'Audichard, on n'a presque rien vu cet après-midi et ce matin, très peu. On a compté 13 vols là-bas, Jean-Michel, pour 1080. Palombe, voilà, le matin, il nous a confirmé qu'il fait quand même assez frais. Voilà, et puis, bon, les chasseurs, ça commence à s'éclaircir un petit peu, mais bon, on continue à chasser pour le GIF. Le GIF comptage tout de suite. Alors, hier, c'est passé du côté du Rugne, et bien cette fois, c'est passé du côté d'Arnégui. Et oui, juste à côté de chez nous, 34 vols pour 12 631 oiseaux. Et un petit peu de retour, hein, on a compté 503 palombes en retour. Mais voilà, c'est le couloir d'Arnégui qui a été le plus fréquenté aujourd'hui. Il n'y a pas eu embouteillage, on va dire comme ça, mais bon, un petit passage, 12 600 palombes environ. Juste à côté, à Banca, donc 38 vols, c'est-à-dire un petit peu plus, mais seulement pour 5 705 palombes. Donc ça fait 154 exactement en retour. Sar, 4 vols seulement pour 597 palombes. Retour, il y en a une centaine. Et Urugne, enfin, hier c'était un joli chiffre. Là, c'est 11 vols seulement pour 1118 palombes. Alors, ça change des 84 000 pratiquement d'hier. Voilà, donc tous les jours, ben, ça se suit, mais ça ne se ressemble pas. Donc, 456 palombes, ce qui fait à peu près à la louche 20 000 oiseaux encore aujourd'hui, ce qui porte le total à 1 237 338 précisément. Selon le comptage du GIF précis, donc... Mais bon, si on tient compte du chiffre l'année dernière, on en est encore loin. Il nous manque 800 000 oiseaux. Est-ce qu'il y aura ce passage encore? Certainement. Pour les prises dans les filets aussi, c'est léger, puisqu'aux Aldudes, c'est zéro. À l'âne, c'est zéro aujourd'hui. On a appris qu'à l'âne, on va finir certainement vendredi ou samedi. On rappelle qu'on est à 1005 palombes à l'âne. Osquiche 0, on en est à 737, voilà, là on s'impatiente un petit peu. Vous savez que Pia, il y a quelques jours, a annoncé peut-être 1000 à Osquiche. Là on est encore loin, il en manque, j'espère qu'il va y avoir du passage. Et puis alors à l'Antabat, 12 palombes seulement aujourd'hui, nous a dit Patrick, pour 579 le total. Et à Napal, ben, on en a encore pris aujourd'hui, puisqu'à Napal, on en a pris 80, ce qui porte le total à 1409. Alors, si on fait les comparaisons, évidemment, ça rapproche dangereusement de Tchalar, qui était à 1421 hier soir. Maintenant, voilà, je crois que ça va se finir, comme on dit, sur la ligne, au sprint. 1421 à Etchalar hier soir, hein, pas ce soir, hier soir, 1409 aujourd'hui à Naples, ça fait 12 de différence, on attend impatiemment des nouvelles d'Arantxa. Alors pour l'écumerie, on n'a pas le chiffre, mais apparemment ce serait zéro, donc à l'écumerie on rappelle qu'on est toujours à 564, c'est-à-dire juste derrière l'Antabat. Et puis, il nous manque Sarre, mais Sarre, on n'a pas dû en prendre, je pense, depuis hier, parce qu'il y a eu très, très peu de passages. Rappelons qu'on a été à 293. On va tenir ces totaux jusqu'à la fin. On vous le dit tout de suite, on va arrêter Radio Palom le samedi matin. Ce sera un samedi matin par un forum. On va tirer un petit peu le bilan de la saison. Ce sera le samedi 12 novembre prochain. On aura le temps d'en reparler d'ici là. On a une dizaine de jours devant nous. Alors, comme on a un petit peu le temps, il y a le feuilleton de Jacques Luquet qui se poursuit aujourd'hui avec l'épisode numéro 2. Mais juste avant Jacques Luquet, on va écouter un petit reportage effectué il y a quelques jours à l'écumerie. Il y en a pour une dizaine de minutes avec Pascal Ourtiag, notamment le responsable des filets, mais aussi monsieur Ido Huppé. On va les écouter tous les deux. On écoute.
Ici devant les filets de l'écumerie, alors on est avec monsieur Hidopé, puis Pascal Thiag, le responsable des filets. On va faire un petit historique d'abord, tu peux nous dire depuis quand ils existent ces...
Officiellement, on n'a pas de papier officiel, mais ça existerait depuis près de 100-300 ans. Depuis des années, bon, les années se ressemblent surtout pas, vu que les prises baissent.
Il y a jusqu'à combien ici, tu sais?
Les années records, il y a eu plus de 8000 palombes.
Ah oui, quand même.
Oui. Après la guerre, surtout, l'homme n'étant pas chassé pendant la guerre, elle était plus tranquille, on va dire.
Il y a moins de pression de chasse.
Beaucoup moins de pression de chasse, oui.
Alors justement, la configuration un peu des lieux, tout nous lié, on est à l'écumerie, on est où exactement?
Alors à l'écumerie, on est sur le col des Palombières, donc entre l'écumerie et Osta. Voilà. Sur la route qui va de l'écumerie à Osta.
Par exemple, ceux qui veulent avoir une petite visite, le mieux c'est qu'ils coupent à...
En venant d'Ostivaré, ils coupent à Bunus, Bunus-Osta, l'écumerie. Sinon, c'est Saint-Jean-le-Vieux, route d'Irati, et à gauche, route d'Osta.
Combien de filets ici?
Alors ici, on a 5 filets cages.
Les 6 visiteurs de ces filets.
On est les seuls, je pense, à travailler la palombe de très loin. On a le premier chatar qui est à peu près à 3 km d'ici, col de Gamia. Donc on a sur une ligne 5 chatars, plus un autre côté Osta, donc 6 chatars, 7 pylônes. Et donc, au bout, les filets avec 5 chasseurs.
Une petite particularité, c'est qu'ils traversent la route.
Voilà, on est traversé donc par la route qui va de l'écumerie à Osta, qui est de temps en temps un peu gênant, mais bon, il n'y a pas très grande circulation, on va dire.
Il n'y a pas grande circulation.
Non, c'est assez calme.
Mais si ça arrive, comment vous faites? Vous arrêtez le...
On est averti par les rabatteurs ou par derrière, par les autres chasseurs, et on arrête les voitures s'il y a un vol, sinon ben, on les fait passer. Gentiment.
Madame, M. Ido Huppé, nous dire à ces filets quelle épaisseur.
La maille, d'abord, la maille du côté doit être à 40. Celle qui a sur le plafond 80 pour pouvoir sortir des palombes plus facilement. Ensuite, la surface de prise de filet ne doit pas dépasser 1000 mètres carrés dans toute la pentière.
C'est précis tout ça.
Il faut que ce soit précis, c'est la réglementation et il faut l'appliquer.
Oui, on me posait la question tout à l'heure, s'il y a des petits oiseaux par exemple qui rentrent dans les filets.
Oui, il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a pas trop de dégâts collatéraux. Quoi. Bon, ça arrive malheureusement que quelques-uns arrêtent leur migration ici, mais bon, on n'y peut rien, hein, vous savez. Mais la plupart, la très très grande majorité, je dirais à 99%, bon, ça passe, il n'y a pas de problème.
Et vous, il y a longtemps que vous venez ici hein?
Ben oui, depuis 1977.
Et vous, comment vous avez vu l'évolution un petit peu là, ici hein?
Bon, ça a baissé. Ouais. Ça a baissé, il y a beaucoup moins de passages. Et surtout les directions de la palombe. Quand on était habitué à voir venir la palombe du côté de Belchou, du côté de Ravenne de Rosta. Ça fait plusieurs années que cette palombe ne vient plus par là. Il y a une très forte pression à l'avant, quoi. Beaucoup, beaucoup de postes de tir au vol qui se sont créés parce que, bon, mais ça s'est tellement démocratisé que quelque part, ça se retourne contre les chasses traditionnelles. Mmh. Vous voyez, on peut pas garder les deux. On veut que tout le monde chasse, mais en fait, ça va pénaliser certaines personnes. Si nous, par exemple, on veut absolument appliquer la loi, il faudrait empêcher les autres de chasser, il faut se mettre à leur place aussi. Alors, c'est difficile, quoi, mais bon, c'est comme ça, il faut faire avec.
Oui, on voit, par les chasses traditionnelles, notamment au filet, on voit la disparition un petit peu de. On a vu Gataouine cette année, je crois que juste à côté de chez vous aussi, les filets Beurlegui, c'est pas la joie non plus. Hein.
Non, c'est pas la joie, non. C'est pas la joie. Ben, ça, là aussi, il faut que la palombe vienne. C'est très rare, parce qu'elle n'a pas tellement, contrairement à nous autres ici, qui avons un rabat de 3 km. Le premier rabatteur est à Gamiens, ça fait à vol d'oiseau exactement 2850 mètres. Bon, il peut se passer beaucoup de choses. Tandis que Beurlegui, par exemple, un rabat court, donc naturel, si dès le départ il est attaqué ou comme ça, c'est-à-dire quelques centaines de mètres en aval, quoi, eh bien, il n'a aucune chance de franchir le col. C'est pour ça que bon, là aussi ça a diminué énormément. Quoi. Alors ça passe toujours un petit peu pour entretenir le moral et puis entretenir la chasse également. Quoi. Ça peut poser problème aussi. Parce que, bon.
Un petit mieux cette année, on va en parler à la fin, si tu veux bien, Pascal. Bon, parle-nous de ton équipe, combien vous êtes?
Alors notre équipe, eh bien, on est au quotidien 18 personnes à chasser. Donc comme je dis tout à l'heure, 6 chatards, 7 rabatteurs et 5 au filet.
Ils sont d'où là, des alentours?
Oh, ils sont tous des alentours, oui. Tous entre Ostat, Saint-Just, bon, on a même un bien.
Il vaut mieux qu'il soit du coin.
Oui, il faut connaître quand même déjà un peu la chasse, les spécificités de cette chasse. Et bon, on est tous du coin, oui, sinon.
Et une bonne ambiance, je vois, apparemment.
Ouais. Très bonne ambiance, une équipe, on va dire, assez rajeunie quand même par rapport à autrefois. Et des jeunes qui sont, on va dire, motivés.
C'est ce qu'on constate en arrivant, c'est la jeunesse des troupes.
Et oui, oui, beaucoup de jeunes maintenant. Bon, mais les jeunes attirent les jeunes, comme on dit.
Alors justement, cette année, on a vu qu'il y a des jolis chiffres dans ces derniers filets, des filets qu'on n'attendait pas. On pense à vous. Voilà, on sait qu'il y a également le filet de Sarre qui a l'habitude. Coup de chiffres, il y a du mieux. Donc, il faut toujours garder espoir, comme disait Katisha Hospital, malgré que l'année dernière, on était très, très pessimiste.
Hein. Oui, depuis 3 ans, on est très, très pessimiste. Mais bon, cette année, ben, voilà, il y a un léger mieux quand même. Là, on est à peu près en mini-saison. Et bon, les chiffres sont quand même meilleurs que les autres années. Oui, la palombe monte.
Viens de nous, cette palombe.
Cette palombe, bon, vu les conditions climatiques de cette année, qui sont quand même un peu plus fraîches que ces dernières années, la palombe est montée plus tôt. Ou descendu, comme on veut. Quoi. Voilà, après, bon, c'est une année à faine aussi. Donc, on dit toujours que quand il y a du faine, la palombe monte plus vers la montagne. Est-ce que c'est vérifié ou non? Bon, pour le moment, on dirait quand même. Après la pression de chasse, on va dire que cette année, la palombe, on a vu plus de palombes l'après-midi par rapport à ces dernières années. Donc, ça aussi, ça y fait, parce que certains chasseurs, pas très patients, on va dire, sont rentrés à la maison. Donc, la palombe est moins tirée, on va dire.
Oui, mais concrètement, à 22, cette palombe.
D'après moi, cette palombe vient plus des Landes, du Gers, bon, de la Gironde aussi, c'est le couloir atlantique. Hein.
Je crois que M. Doipé a même une anecdote sur la migration des palombes. Paraît-il, on a pris une palombe assez âgée ici à
Lécumberi, oui. Cela m'avait déjà été dit autour des années 70 par Jacques Urruti, ancien responsable des filets de Lécumberi. Et cela est confirmé dans le livre écrit par M. Jacques Luquet, sur lequel il est dit que le record absolu à ce jour est attesté par une bague portée pendant 16 ans et 4 mois par une palombe capturée au pantir de Lécumberi en octobre 1966, dont il y a exactement, nous fêterons le 50e cette année, ouais. De bon cœur. Elle avait été baguée en Lituanie au stade de Poussin en 1950. Le précédent record était détenu par une palombe baguée à Londres qui a porté sa marque durant 13 années, 8 mois et 23 jours.
Elle n'avait pas le même goût, ça, je crois.
Non, alors... non, mais enfin, on a battu des Anglais à Lécumberi.
Oui, on a battu des
Anglais. Grande victoire. Hein.
Grande victoire.
Sur les British, c'est toujours une grande victoire.
Oui, hein. Pascal, juste dire un petit mot aussi. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de tirs au vol devant les derniers filets, etc. Et puis il y a des réglementations de plus en plus drastiques. On en a vu encore des exemples. On vous a téléphoné pour mettre en garde à certains chasseurs. Ça ne devient pas trop compliqué?
Compliqué, non. C'est des réglementations qui ont toujours existé finalement. Hein. C'est des chasses traditionnelles, donc tout appareil électronique ou mis à part les portables bien sûr, sont interdits. Bon, ils jugent que dans la tradition, autrefois il n'y avait pas tout ça, donc ils perpétuent la tradition, c'est tout. C'est normal.
Oui, et puis il faut dire que voilà, c'est plus agréable aussi de tous ces artifices de laisser de côté, hein, sans avoir au courant des takiwalkis ou autre chose. Hein.
Voilà, voilà, c'est plus normal. Et puis c'est, on va dire que c'est une chasse beaucoup plus vivante. Voilà. Il vaut mieux entendre les gens parler entre eux de pylône à pylône ou de chatard à chatard que dans un petit appareil où on n'entend plus rien.
Peut-être raconter, aujourd'hui je vois qu'il y a du brouillard, c'est un peu compliqué, vous attendez que ça se dégage et le temps passe, hein, il est presque 10h, et des fois vous attendez longtemps comme ça.
Et des fois c'est la journée avant-hier, malheureusement, comme hier, on a attendu, mais ça ne s'est pas dégagé. Donc, aujourd'hui aussi, on attendra. On a toujours espoir que.
Le sourire, hein.
Toujours avec le sourire. Non,
très bien.
Toujours
assez. On est là. Tu peux nous raconter justement, se passe une journée, vous. Vous arrivez à quelle heure aussi?
Alors, une journée, nous, on arrive à peu près vers 7h30. Et bon, monsieur, pour le traditionnel café. Et ensuite, à la pointe du jour, on pose les filets, chacun part dans son poste, et puis c'est l'attente qui commence, plus ou moins longue.
Jusqu'à,
tout dépend du passage, du temps, ça peut aller vers 4-5 heures ou 6 heures, tant qu'il y a de la plombe.
Et après, vous rentrez chez vous ou vous réunissez encore?
À la descente, on ramasse déjà tous les filets. Ici, c'est là, c'est une particularité. Il faut tout ramasser. Et puis après, on va dire un petit verre avant de partir.
Un côté convivial, l'apéritif, on va dire.
Voilà.
Il faut dire que vous avez fait un joli coup, là, un jour, tu me disais.
Oui, samedi dernier, on a fait un joli coup à 4 heures de l'après-midi. Un beau vol s'est présenté. On en a pris 174 d'un coup.
Alors, voilà. C'est les frissons, l'adrénaline?
L'adrénaline, là, elle montait. Surtout, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas fait un gros coup comme ça. Puis ça remonte le moral des chasseurs surtout, vu tous les jeunes qui n'ont pas connu ça, c'est un formidable coup, oui ça.
Et puis il faut faire vite, peut-être il y a un autre derrière qui arrive, est-ce que c'est déjà justement arrivé?
Oui, dans le passé c'est arrivé souvent, ça. Souvent coup sur coup, vous prenez, vous avez les filets par terre, et puis c'est souvent là qu'un autre arrive suivant. Donc si quelques filets restent debout, on essaie de le travailler, sinon c'est la chance pour les oiseaux.
Merci beaucoup Macha, juste un petit mot, vous avez une visite assez inattendue je crois.
Oui, l'année on a eu la visite donc d'une journaliste du New York Times qui, qui a fait un article qui doit paraître apparemment au mois de novembre, là, vers le 12-13 novembre. Donc voilà.
Et vous avez eu droit à la télévision, je crois, récemment aussi.
On a eu droit aussi donc à TF1 qui a fait un petit reportage sur ici et puis ailleurs aussi, mais il nous a fait un petit coucou, on va dire.
Quand vous ne mangez pas de palom, est-ce que vous mangez des omelettes au cèpe? Non, on ne le dit pas, monsieur Doipé.
Oui, ça arrive, mais cette année, c'est pas ça.
Ah bon, voilà.
Il y en a eu en bas, il y en a eu en haut, mais nous autres ici, je peux vous dire, à 612 mètres d'altitude, il n'y a pas de cèpe.
Bon, très bien. Alors ne venez pas, c'est pas la peine.
C'est pas la peine. Non.
Merci beaucoup, messieurs. Bonne continuation.
Merci à vous.
Vous chassez jusqu'au 11?
Jusqu'au 11, oui.
D'accord.
Oui.
Merci beaucoup. Voilà, monsieur Hidoypé, donc, et à l'instant, Pascal Ourtiag, donnant les chiffres dans la famille Ourtiag, tous les soirs depuis nombre d'années. Hein. Merci beaucoup. On va enchaîner, on va écouter à nouveau un son, mais juste le temps de rappeler quelques chiffres. D'abord que le passage est passé du côté de Urugne aujourd'hui, du côté d'Arnigui. C'était hier, Urugne, avec 12 631 palombes. Mais par contre, bon, ailleurs, ça a été un peu la misère. Sachez que l'Antabat a pris 12 palombes aujourd'hui. C'est les seuls chiffres qu'on a. Et Napal, 80. Donc, Napal qui avait 1409 doit talonner de très près maintenant. Etchalar pour le titre de champion. On n'est pas encore là. Sachant que Etchalar chasse en plus longtemps encore. Ils vont aller jusqu'au 20 novembre, certainement. On verra Napal s'ils vont continuer après le 15. Donc ça va se jouer donc à peu de choses. On va poursuivre notre feuilleton avec Jacques Luquet. On va en parler un instant, et M. Hidoypé. Mais Jacques Luquet, on va écouter le feuilleton. On va dire la suite, je vais arriver. Numéro 2, donc tout de suite, Jacques Luquet. Alors, on sait que maintenant tu ne chasses plus, alors c'est un peu contradictoire, tu nous parles que tu tuais des oiseaux.
Quand... Alors, il y a prescription, mais quand on est gamin et qu'on est à la campagne, bien évidemment, on commence à chasser sans être titulaire du permis de chasse. Donc, dès que j'ai eu 16 ans, j'ai eu un permis de chasse, l'on me demandait, et avec l'autorisation de mon père. Donc, à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, j'ai chassé. Et je suis titulaire du permis de chasse. Je n'ai plus qu'à le faire valider en achetant les timbres qu'il y a, mais je suis titulaire du permis de chasse. Mais je n'ai jamais fait valider mon permis de chasse pour des raisons professionnelles. D'abord, lorsque j'ai eu le concours pour entrer à l'Office des forêts, j'ai devancé l'appel, résilié un sursis, je suis parti à l'armée, et dès que je suis rentré de l'armée, je suis rentré à l'Office des forêts. Donc là, pour chasser, il nous fallait une autorisation de notre chef d'agence et la demande du permis de chasse était faite au niveau de la préfecture. Parce que comme on a des fonctions de police judiciaire, c'est un peu délicat de chasser dans les zones où on est censé pouvoir adresser des procès-verbaux à des gens qui feraient des délits de chasse. Donc être juge et parti sur le territoire où l'on est, moi j'ai trouvé que c'était un peu antinomique, que ça ne pouvait être que source de problèmes ou source de conflits ou d'envie ou de choses comme ça. Donc j'ai préféré ne pas chasser. Mais par contre, ça ne m'a jamais brimé dans ma passion de la chasse, puisque de toute façon, j'allais dans les palombières autant que les chasseurs.
C'était que la palombe, il n'y avait pas le sanglier, il n'y avait pas d'autres chasses, c'était vraiment la palombe.
Voilà, j'ai aussi été à la chasse à la bécasse, toujours avec mon cousin, mais non, ça n'a pas été, j'ai pas eu de déclic pour ces oiseaux-là, même si je les trouve superbes, que je trouve le travail du chien superbe, j'aime bien toutes les chasses, mais j'avoue que pour la palombe, en plus, l'oiseau m'intéressait, je le trouvais très beau, avec un petit peu de mystère, et après, comment se déclenchent les passions exactement, je sais pas, il faudrait peut-être aller voir un psy pour qu'il puisse m'en donner, mais je crois que le gars, à l'âge qu'il est, il aurait vraiment beaucoup de travail.
On parle de la palombe, alors justement, tu vas nous éclairer. On sait qu'il y a la palombe, le biset, et puis le pigeon tout court. Quelle est la différence entre toutes?
Alors le pigeon domestique, c'est celui qu'on appelle d'une manière un peu plus vulgaire, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le pigeon de clocher. C'est-à-dire celui qu'on trouve dans toutes les villes et qui se reproduit dès qu'il y a la possibilité de trouver une possibilité de nidification et qui reste quand même très limité dans les alentours, mais qui peut être quand même cause de dégâts, notamment en matière agricole. Lorsqu'il y en a des quantités assez infernales, parce qu'il n'y a pas de prédation quasiment sur ces oiseaux-là, ils peuvent aller créer des dégâts à l'extérieur des villes qui peuvent être assez conséquents. Ensuite, dans les colombies des sauvages, il y en a trois. Il y a donc le pigeon ramier, qui est la palombe, le pigeon colombien, qu'on appelle aussi biset, rouquette, et après, il y en a un troisième, le pigeon des roches, qui est beaucoup plus confidentiel. Le pigeon colombien et le pigeon des roches sont très semblables et très proches au niveau des dimensions, mais le pigeon des roches, lui, il a le dessus du croupion qui est blanc. Et lui, c'est un cavernicole, c'est-à-dire qu'il ne se reproduit que sur des falaises et des choses comme ça. Alors, à des époques, il y en a eu beaucoup, et il a beaucoup disparu. Maintenant, en France, on n'en trouve plus que dans certaines côtes un peu rocailleuses de la Bretagne, et également un petit peu dans les falaises en Corse. Autrement, il y en a aussi sur les falaises au sud du Portugal, et il y en a eu beaucoup, il y en a un peu moins, mais il y en a encore dans les falaises, notamment au Royaume-Uni, en Angleterre, Écosse, etc. Et après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle, nous, la palombe, le pigeon ramier, en français, et c'est le plus gros des colombidés sauvages que l'on ait en Europe.
Le biset, c'est une jeune palombe?
Pas du tout. Le biset, c'est le pigeon colombien. C'est-à-dire, c'est le petit gris, celui qu'on chassait d'une manière plus traditionnelle, voilà, dans les rouquetières, à partir du début septembre, même voire un peu de la fin août, dans le temps, à l'époque où il y en avait des populations très importantes.
Ça fait combien alors?
Alors, il y a trois espèces sauvages, plus l'espèce de pigeon de clocher, le pigeon domestique, donc, et après, dans les colombidés, il faut aussi rajouter la tourterelle des bois et la tourterelle turque.
Est-ce que tous y migrent?
Alors, le pigeon des roches, lui, il migre plus ou moins, mais il est quand même inféodé à son aire de nidification, etc. Donc, dans les roches, il reste assez fidèle à ces zones-là. Après, le pigeon colombien et le biset ou rouquette et la palombe, eux, sont des migrateurs, au même titre aussi que la tourterelle des bois. La tourterelle turque, elle gagne du territoire, elle se fixe sur ce territoire, et de bon en bon, elle progresse pour envahir, elle a quasiment envahi la totalité de l'Europe. Mais on ne peut pas dire que ce soit un migrateur. C'est un oiseau conquérant, il conquit des territoires, mais il se fixe dessus. Après, il ne migre pas.
Et alors, justement, c'est quoi les zones alors de départ de ces oiseaux? Les zones d'arrivée, bon, les zones des passages, on les connaît, c'est ici. Mais c'est quoi le départ et l'arrivée?
Alors, pour les pigeons ramiers ou pour les colombins qui passent, c'est toute l'Europe du Nord et une partie de l'Europe de l'Est, au moins le nord de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire les pays baltes, la Pologne, une partie de la Russie. Ça, ces oiseaux-là migrent vers ici pour ensuite aller passer l'hiver dans la péninsule ibérique. Au sud de la péninsule ibérique, et les évolutions humaines, avec toutes les interventions que l'on a en matière agricole, en matière paysagère, en matière forestière, etc., etc., font que, sous les effets aussi d'un réchauffement climatique qui serait lui-même d'origine humaine, il y a un comportement des oiseaux qui se produit sur les effets migratoires et aussi sur les effets des zones d'hivernage.
D'accord. Ça veut dire que les oiseaux ont tendance à se sédentariser maintenant un peu plus?
Voilà. Ils se sédentarisent beaucoup plus parce que, tout simplement, les oiseaux, ils réagissent d'une manière que nous, êtres humains, nous avons oublié avec notre progrès et nos techniques. L'être humain a lui-même été un migrateur. C'est-à-dire qu'à une époque fort lointaine, on suivait les troupeaux de rennes, et puis parce que c'était notre garde-manger. Les oiseaux, les palombes notamment, quittent le nord parce qu'il fait froid, il n'y aura plus rien à bouffer, c'est pas un oiseau qui gratte, donc il ne mange que ce qu'il voit. Contrairement aux gallinacés qui, eux, sont capables de gratter le sol pour découvrir des graines. La palombe, si elle a une couche de neige, elle ne voit plus ce qu'elle mange, elle s'en va. Donc elle quitte ses zones de nidification pour aller passer l'hiver dans des zones plus tranquilles où elle aura un meilleur climat et surtout où elle aura un garde-manger.
À l'occasion de ses 30 ans, Radio Mendilili organise une exposition et une conférence sur la chasse à la palombe à Tardes, à la salle Etchaoun.
Rendez-vous du lundi 7 au jeudi 10 novembre, de 9h à midi et de 16h à 19h, pour visiter notre exposition.
Et le jeudi 10 novembre, à 20h30, une conférence avec Jacques Luquet sur la chasse au filet.
Et n'oubliez pas, tous les jours, Radio Palombe, c'est à 18h45 et en rediffusion le lendemain matin à 11h30.
On va vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous. On va juste se retrouver d'abord demain pour une nouvelle émission de Radio Palombe. Le feuilleton, donc le volet, on va dire, numéro 3, à ne pas manquer. On va suivre encore Jacques Luquet, notre docteur S. Palombe, toute la semaine prochaine aussi. Restez avec nous. On a donné tous les chiffres pour aujourd'hui. On vous souhaite une bonne soirée. On rappelle que demain, il y aura du grand soleil. Température à peu près comme aujourd'hui, donc frisquette le matin et l'après-midi, donc chaud, aux alentours de 20 degrés. Profitons-en. Bonne soirée. Le restaurant Nicolas Kisch à Musculi vous propose, dans un panorama idyllique pour les amateurs de chasse, de déguster sa palombe rôtie ou sa palombe flambée au capucin, midi et soir. Le restaurant sera ouvert jusqu'au 27 novembre. On peut prendre des renseignements ou réserver au 05 59 37 80 23. Le restaurant Nicolas Kisch, partenaire de Radio Palombe.
Les confitures de Haute-Soule à Sibas, vous connaissez? Une entreprise artisanale qui fabrique de la confiture à l'ancienne dans des chaudrons, mais aussi qui fabrique votre jus de pomme. Alors n'hésitez pas, vous appelez Mayana ou Cathy au 05 59 28 59 83. Par contre, attention, jusqu'à la fin du mois, après c'est fini. Les confitures de Haute-Soule souhaitent une bonne saison à nos amis chasseurs. Bon courage à tous!
À 19h15, minutes, on en dit bonsoir, mais on va faire une petite rallonge avec notre jeu, évidemment, en direct tout de suite. Alors, on continue, même système, même procédé, il faut trouver le nom d'oiseau. Allez, on va jouer, il y a un super lot ce soir, offert par le magasin Gamme Vert et également par la station Pierre Saint-Martin. On fera la publicité tout à l'heure. Il faut d'abord trouver cet oiseau. Alors, il se caractérise, on va dire, par un bec assez long, fin, et attention, ça c'est un indice, recourbé vers le bas, pour ceux qui connaissent. Et un plumage surtout marron avec un peu de changement, avec un peu de changement suivant la saison. Voilà, on a donné déjà cette info, 59, 28, 20, 20. Merci de jouer avec nous.
Allô?
Écoute. Hein.
Alors, le courlis.
Et comment vous avez trouvé ça? Mais c'est fabuleux.
C'est mon papa.
Non, très bien. Et c'est peut-être le bec long, fin, recourbé vers le bas?
Oui.
Ah bien. Mais c'est bien le courlis, voilà, qui trouve sa nourriture dans la vase où la terre est très molle. C'est pas un oiseau quand même très commun ici. Et voilà, donc ben, on va vous offrir un lot. D'abord, on va vous demander, est-ce que vous avez un petit garçon par chez vous?
Non.
Non, pas du tout. Il y a plusieurs. Ils sont plusieurs. Là. Est-ce que vous avez dans la famille un petit garçon chez vous?
Oui.
Ah, bon, alors oui. D'accord, alors on va lui offrir une paire de bottes. C'est sympa, des bottillons. Des jolis bottillons. Oui?
Oui.
Alors tu t'appelles comment?
Lola.
Lola, d'accord. Ben Lola, alors voilà, on va offrir Lola qui a trouvé le courrier. On va lui offrir une paire de bottes. J'y arrivais, je suis un petit peu troublé. Il faut dire, voilà, on n'a pas beaucoup de... Alors on rappelle quand même que le magasin... gamme vert, ça c'est pour les accessoires pour les chiens, ça n'a pas trop de rapport. C'est le magasin Médicolisage, je veux dire. Hein. C'est donc la Cicassoul, si vous préférez, et plus communément, qui propose évidemment la vente des vêtements et chaussures. Ici au magasin à Mollion, il y a tout un rayon chasse qui propose une gamme complète donc, d'habillement et de chaussures alliant qualité, confort, sécurité pour ne plus jamais rentrer. Bredouille. Donc, vous préférez peut-être... Est-ce que vous avez un chien? Vous préférez les bottillons ou les croquettes? Des croquettes?
Des croquettes?
Vous préférez les croquettes ou les bottillons? Les croquettes?
Oui.
Ah bon? Donc, vous avez un chien, alors?
Oui.
Bon, on va y arriver. Alors, voilà. Et puis, on va vous offrir un petit lot offert par la Pierre Saint-Martin qui vous offre... foulard, bracelet, il y a autocollant, voilà, on vous offrira pas mal de choses, vous venez chercher tout ça à la radio, on sait que la saison de ski se prépare à la Pierre Saint-Martin, donc normalement si tout se passe bien et si la neige arrive vite, ça devrait ouvrir aux alentours du 3 décembre, donc on va vous offrir un lot offert par la Pierre Saint-Martin également, donc voilà, vous venez chercher donc ces croquettes et le lot, la Pierre Saint-Martin, ici à la radio, vous appelez comment votre prénom, Lola?
Oui.
C'est ça, c'est Lola. Il me semblait bien. Vous venez à la radio. Merci beaucoup de jouer avec nous. Vous ne quittez pas, on part en rantaine.
Merci.
On va remercier Lola pour cette bonne réponse. La timide Lola, on va l'appeler comme ça, qui a trouvé quand même le courlis, hein, même si elle a été aidée par son papa. Alors ça, c'est assez fabuleux parce qu'elle l'a trouvé très, très vite. Hein. Je lui ai donné quelques éléments, mais quand même, c'est très, très fort. Alors, on va continuer donc dans ce style-là pour demain. Il y aura d'autres nombreux lots. Hein. On parlait du magasin Médicolisa qui a donné aussi des superbes vêtements. Il y avait un super foulard, ou une écharpe plutôt, voulais-je dire. Et puis, on jouera aussi à un magasin en verre. On continue. Voilà, on va vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à tous, et à demain.
Keltyniz bide luze utan yurats pausa luzian beti pentsaketan atorra bustia dut ulare rainetan idortu nahi nuke txion baino hortan. Argizagi edera, argiegi nazu, bide luze batian, joan behar aduzu. Gaiunta nahi nuke, maitia mintzatu, arenganatu arte, argiegi nazu. Ora busti hori garaia ezazu Nikola banaturi guztia ez duzu bidian eman gabe puntuzik egizu bidiaren durian nahi zaituzten zu. We'll be right back.
argiak argitzen dizi, gaia zoa ardi denian. Argizagiak argitzen dizi, gaia zoa ardi denian. Ene maitian ikusi nizi, dantzan plazaren erdian, izar baten bezal argitzen zizun, beste ororen artian. Hene maitian ikusi nizun, dantzan plazaren batek bezal argitzen zizun heste ororen ardian. Nurra nahi juan adin ene maitia zurekin. Nurra nahi joan adin ene maitia zurekin. Deskantzirik bat ere ez dizun ene gazte lagunekin. Nuret zutudan ene haizin zure begie berekin. Deskantzirik bat ere ez dizu ene gazte lagunekin. Nuret zutudan ene haintzinia zure begie berekin. Bilua txori begia beltz, nik zu maite zuniez. Bilua txori begia beltz, nik zu
alors, on va retrouver comme tous les mois notre émission consommateur-conso-acteur avec Georges Loustonobéro et donc s'appuyer toujours sur l'UFC que choisir. Bonjour Georges.
Bonjour Gilles, comment allez-vous?
Ça va, comme le temps est...
C'est-à-dire un peu perturbé?
Oh non, pas du tout. Et d'ailleurs, ça va tellement bien, ça va tellement bien qu'on va parler de deux sujets aujourd'hui pour le prix d'un. Alors deux sujets, mieux assurer le bien-être animal et le scandale des frais cachés dans les contrats d'assurance vie.
Je ne vous ai pas dit assurance vie. Stricto sensu. Je vous dis assurance vie et PEA.
On va en parler, ces deux sujets qui ont été traités dans l'un des derniers numéros du UFC que choisir. Alors on va commencer par mieux assurer le bien-être animal. Alors là on se dit quel est le rapport avec les consommateurs, le bien-être animal?
Mais c'est une façon de décrypter un élevage. Vous avez deux sortes d'élevage, Gilles. Vous le savez puisque vous êtes en pleine région d'élevage. Ici on pratique plutôt un élevage extensif. Puis, il y a ce qu'on appelle un élevage intensif. Et c'est là qu'il y a beaucoup à dire. Parce que c'est là que le bien-être animal est quelque peu, je dirais, bafoué.
Et par rapport aux consommateurs?
Et par rapport aux consommateurs, en règle générale, dans un élevage très intensif, on se fout un peu de la qualité du moment qu'il y a de l'argent qui rentre.
Alors ce numéro, il a été fait par l'UFC Choisy. Qu'est-ce qu'ils ont mis en exergue par rapport à ces élevages intensifs?
Ces élevages intensifs, eh bien, surtout, on a une croissance exagérée et très rapide des animaux. Par exemple, dans un élevage intensif, je prends l'exemple de la charolaise. Eh bien, au bout de 18 mois, vous avez un animal qui est prêt à être consommé. Mais cela va quelque part au dépens d'une qualité plus goûteuse de la viande. Vous avez un éleveur, par exemple, qui est dans le secteur 03, qui lui a décrété qu'il ne voulait plus, quelque part, entre guillemets, faire souffrir ses animaux. Parce que dites-vous bien, dès que vous touchez un tant soit peu à la forme d'élevage, c'est-à-dire que vous enfermez vos animaux avec des animaux qui sont de plus en plus lourds, eh bien, vous avez quelquefois au village, vous avez beaucoup de problèmes. D'autre part, vous avez des problèmes également pour que vos animaux évoluent correctement sans avoir besoin d'antibiothérapie fréquente ou de, disons, entre guillemets, de produits plus ou moins hormones et autres, ou autres produits qui permettent à l'animal d'avoir une masse musculaire beaucoup plus importante en peu de temps. Voilà.
D'accord. Et pourquoi ils ont sorti en ce moment ce numéro? C'est parce que, bon, ils ont...
Parce qu'il y a eu plein de choses, Gilles. Il y a eu un sujet très sensible dont vous avez eu malheureusement un exemple très proche. Il y a des gens qui se sont un peu intéressés à la façon dont on élevait les animaux. Et on a constaté effectivement que quelquefois, il valait mieux faire de l'extensif que de l'intensif. Parce que l'intensif, c'est quelque chose qui est épouvantable. J'en ai eu un exemple il y a quelques années, personnellement. Bon, pour ne rien vous cacher, j'ai élevé des chevaux de sang. Je suis un ancien cavalier et j'ai dû abandonner pour des raisons purement, disons, médicales. Et à un moment donné, j'avais une jument qui était en pension dans un établissement dont je tairai le nom. Et parallèlement à cet établissement équestre, il y avait un élevage de veaux en batterie. Un beau jour, en allant payer la pension de la jument, j'avise un veau qui gambadait dans la cour de cet établissement. Il était en pleine forme, l'animal était très gai. Et je dis à la propriétaire des lieux, mais enfin, vous avez un veau qui s'est échappé. Ah non, elle me répond, tac au tac, c'est pour ma propre consommation. Si vous croyez que je vais manger de ces saloperies qui sont dans les tables, là. Plusieurs fois, je suis allé, parce que j'avais besoin de contacter la propriétaire, je suis allé dans les tables où étaient parqués ces pauvres veaux. Alors, leur seul mouvement autorisé, c'était un mouvement de bas en haut. Il y avait deux réfrigérateurs qui étaient pleins de produits. Il y avait des antibiotiques et une odeur pestilentielle qui sortait de là. Il y avait un taux de mortalité qui était très élevé parce que ces pauvres bêtes étaient stressées. Elles ne développaient pas de défense naturelle. Elles attrapaient toutes les maladies qui passaient par là. Mmh.
Depuis, ça a été réglementé. Il y a eu une réglementation nouvelle. Qui est...
Ah, mais ça a été très bien. Mmh. Je vous parle de quelque chose, ça doit remonter à plus de 30 ans. Mais en fait, c'était atroce. Mais il n'empêche, il y a la ferme de Millevaches, Gilles, aussi, qui existe. Et ça, ce n'est pas un exemple à mettre en avant. Parce que les vaches, qu'est-ce qu'elles voient? On leur fait produire du lait dans n'importe quelle condition, du moment qu'elles pissent du lait. Je ne vous dis pas que le lait est de bonne qualité. C'est pour ça qu'il y a eu cet article aussi. C'est, si vous voulez... Ça fait partie du bien-être animal, parce qu'une vache, ça sort, ça broute. Bon, et ça se fait une bonne viande au contact de l'herbe qu'ils mangent, et non pas forcément des produits qu'on leur donne dans ce type d'établissement. Or ici, ce n'est pas du tout ce qui est pratiqué. On a surtout un élevage qui est tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire les vaches sortent, elles vont, elles viennent, elles vont dans des prés bien souvent et elles produisent moins en quantité mais avec une viande qui est plus goûteuse.
Alors que propose l'UFC que choisir? Est-ce qu'il dit il faut légiférer, il faut...
C'est surtout, il y a une prise de conscience qui se manifeste de plus en plus, d'une façon de plus en plus importante, pour pousser les gens à consommer un peu moins de viande, mais à consommer une viande de meilleure qualité. Or, il y a un éleveur, je vous en ai parlé au début, qui a essayé avec des vaches, alors je vais vous dire le nom de la bestiole, c'est des Highland Cattle. C'est des vaches qu'on élève en totale liberté. Il a un taureau qui saillit ses vaches, donc le standard de la vache ne bouge pas, parce qu'il n'y a pas une sélection qui est faite sur des animaux qui sont de plus en plus importants et avec quelquefois des vélages qui sont de plus en plus difficiles. La vache, on ne lui coupe pas les cornes puisqu'on ne la fait pas rentrer et on ne fait pas pour mettre plusieurs vaches dans une même stalle pour leur faire manger. Et voilà. Et lui, il est content, si vous voulez, de cette façon d'élever. Évidemment, il a une rentabilité qui est nettement moins importante parce que là où quelqu'un, un charolais, arrive un peu poussé par une sélection naturelle et peut-être aussi d'autres produits, arrive en 18 mois, lui, il faut pratiquement le double pour avoir une vache, mais vous avez une viande qui se tient plus à la cuisson, qui est plus goûteuse, qui est plus... Je ne vous dis pas de tomber comme le font certaines personnes dans un autoritarisme et un obscurantisme. Ils disent non, il ne faut pas toucher la viande, gna gna. Il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux omnivores. J'emploie ce terme à bon escient. Donc, il faut que nous mangions de la viande. Je ne vais pas tomber dans ce que veulent nous faire avaler les végans, les végétariens et autres. C'est-à-dire, pas de viande du tout. Non, de la viande, il nous en faut. Et des protéines animales, il nous en faut. Mais la question est toujours de bien élever et de ne pas prêter le flanc à ce genre de personnes qui, quelquefois, sont un peu staliniennes, je dirais, dans leur raisonnement.
Et le fait que choisir, elle dit par exemple, privilégier plutôt telle filière, telle, il y a des conseils ?
Eh bien, il conseille tout simplement un élevage en plein air, avec certaines variétés de vaches et d'animaux, de porcs par exemple, de poulets qui sont élevés. Parce qu'actuellement, tiens pour les poulets par exemple, vous avez 80% des poules qui sont encore en cage. Alors, pour avoir des poules, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait éclore des œufs, et puis hop, quick, on zigouille tous les poussins mâles, et vous savez ce qu'on en fait ? On les donne à manger aux rapaces qui sont en captivité, ou aux serpents, on les habitue. Voilà. C'est un peu la politique de l'UFC que choisir, c'est un élevage, je dirais, raisonné. Il ne tombe pas dans le sectarisme de certaines personnes qui prônent une absence totale d'alimentation carnée. Voilà, en gros. Et, par exemple, pour les cochons aussi. Les cochons, ça aime fuir dans le sol, ça aime se rouler, ça aime... C'est curieux, un cochon. Eh bien, au lieu de le mettre, de le parquer dans un lieu où on lui coupe la queue, laissons-les courir dans la campagne qui se nourrissent de glands, de choses comme ça. Et on aura une alimentation qui sera beaucoup plus goûteuse, beaucoup plus agréable à cuisiner. Et autre chose, je pense qu'il vaut mieux qu'un agriculteur aille vers ce type de pratique d'élevage plutôt que de l'intensif, parce qu'on est en train, avec ce genre de choses, de les mettre dans le caca. Dans le purin. Regardez l'élevage du porc en Bretagne. Les pauvres gens, ils sont en train d'en crever. Et une autre partie du bien-être animal, il est de plus en plus question d'autoriser l'abattage dans des questions sanitaires très strictes dans le lieu d'élevage, pour éviter transport aux animaux, enfin, plein de petites choses. Thank you.
tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blanca de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas, la una se perdió. Sus padres con vergüenza, blanca de rosa y ramas de flor, sus padres con vergüenza lo deslambió.
Alors, second sujet dont on va parler aujourd'hui, alors c'est pas du tout par rapport aux animaux, là on va retrouver.
On va parler de blé, de
céréales. Donc on va parler du scandale des frais cachés. Alors ça c'est un lièvre qui a été levé, je crois, par un journal.
Eh bien, vous avez tous entendu parler du journal Mediapart, qui est un journal qui est distribué exclusivement par Internet et par abonnement sur Internet. Donc, Mediapart est curieux, est un peu fouineur, mais c'est nécessaire de temps en temps. Et vous allez voir pourquoi. Mediapart s'est penché sur certains produits qui étaient commercialisés par deux établissements financiers, la Caisse d'épargne et les banques populaires, qui sont réunis sous Natixis. Donc, ces établissements commercialisaient donc des assurances vie et des plans d'épargne par action. Alors, c'est une affaire, ça, que j'appellerai en cascade. Vous avez une première société qui crée un fonds d'investissement. Cette deuxième société le propose à une deuxième, qui est Natixis. Et Natixis le propose aux personnes qui sont actionnaires de Natixis, c'est-à-dire les banques populaires et les caisses d'épargne sont actionnaires à 70% de la société Natixis. Donc voyez, les étages. On part d'une société, on arrive à Natixis et on arrive aux caisses d'épargne et banques populaires, lesquelles commercialisent plusieurs produits qui sont des assurances vie et des PEA.
Là, c'est tout. Il n'y a rien de plus normal. Enfin...
Bon, si c'était clair, mais... Comme c'est dans les supermarchés, vous avez connu le scandale des marges arrière. Mais c'est exactement la même chose. Alors, on commercialise ces fameuses assurances d'avance vie et ces PEA, plans d'épargne par action, c'est-à-dire c'est des placements, les PEA, qui vont exclusivement sur le marché des actions, donc qui sont un peu risqués. Je vais parler de l'assurance vie, qui est un support qui peut être très valable si vous avez un peu d'argent à placer. Premièrement, c'est celui qui rapporte le plus. Deuxièmement, c'est celui qui permet, au cas où vous disparaissiez, de laisser une certaine somme à une personne que vous désignez, qui n'est pas forcément votre fils, votre fille, ça peut être quelqu'un d'étranger. Et c'est hors succession. Alors, cette assurance vie, vous avez une certaine somme d'argent placée, vous prenez une assurance vie, et vous pouvez, disons, placer dans cette assurance vie votre argent sur différents supports. Vous pouvez le placer une petite partie en actions, une partie dans des sociétés immobilières et une autre partie sur ce qu'on appelle sur les fonds euros. Les fonds euros, il vaut mieux ne pas y mettre beaucoup d'argent parce que vu ce que rapportent les emprunts qui se font au niveau État, qui sont avoisinant zéro, intérêt zéro, il vaut mieux ne pas trop se lancer là-dedans.
Bon, mais ça, on va demander des renseignements à sa banque ou à son assurance qui va nous faire placer ce fonds. Mais après, alors, le scandale, il est où, alors?
Le scandale, il est où? C'est que vous avez des frais cachés. Vous pouvez bien vous dire, Gilles, que quand vous vendez quelque chose et vous faites le suivi de cette vente, il faut que vous vous rémunériez. Alors, il y a une rémunération qui est officielle, c'est-à-dire celle qui est écrite noir sur blanc sur votre contrat, et il y a quelque chose qui est caché, qu'on ne vous dit pas, qu'on découvre, parce qu'un jour, eh bien, vous perdez de l'argent. Ici, il y a un monsieur qui a, par exemple, qui avait placé sur un fonds, placé 91 000 euros, il a perdu 6 000 euros sur son capital, alors que ça aurait dû lui rapporter. Et tout ça lié aux frais cachés. Alors, vous allez voir quelle était l'astuce. Eh bien, tout simplement, une filiale de Natixis, qui est à l'origine des fonds de placement, eh bien, tout simplement, facturer aux banques qui distribuaient les assurances de vie, facturer des sommes qu'elles n'auraient jamais dû facturer, puisqu'il y avait déjà des frais qui étaient contractuels. Et c'est là où les banques, pour s'en sortir, eh bien, elles amputaient un peu le capital des gens qui avaient placé de l'argent. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais rien n'était officiel. Tout ça, ça se passait en dessous, là, comme dans les marges arrière dans les supermarchés. Exactement de la même façon.
Oui, mais les gens ne se sont pas rendus compte, hein?
Ben, ils s'en sont rendus compte quand ils ont vu leur capital fondre comme neige au soleil. Ce monsieur qui avait placé 91 000 euros, normalement une assurance vie, vous devez retrouver la totalité de votre capital et non pas l'avoir amputé. Et ce n'est pas les seuls. Parce qu'actuellement, l'UFC Que Choisir ferraille avec la BNP pour une histoire comme ça aussi. Et ce n'est pas les seules banques. Toutes, elles ont un peu les mains dans le cambouis dans ces histoires-là. Pour ces frais cachés qui ne sont pas officiels, on vous annonce un taux de rémunération, mais en réalité, ce taux de rémunération est amputé par tous ces frais cachés qu'on ne vous annonce pas lorsque vous signez le contrat. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il est anormal qu'une société, une fois qu'elle a vendu son produit, la banque a des frais de gestion ou la société gérante du fonds que vous avez, peuvent vous facturer quelque chose, mais pas le tiers, pas celui qui est à l'origine, puisque son produit a été vendu, placé. Et là, c'est ce qui se passe. Ils facturaient aux banques une certaine somme qui leur revenait. Dans les banques, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles amputaient un peu le capital de...
Et là, les suites de ça, qu'est-ce que ça a été, puisque maintenant, ça a été révélé?
Ça a été révélé. Eh bien... Il va y avoir certainement des actions de groupe qui vont être menées parce que...